Nous sommes le lundi 18 mars et demain, comme tous les mardis, le gouvernement ira répondre aux questions des députés à l'Assemblée nationale. C'est comme cela toutes les semaines, hashtag QAG, question au gouvernement. Le mardi l'Assemblée, le mercredi le Sénat, c'est l'usage. Enfin, quand les ministres prennent la peine de se déplacer. Bonjour Anne, bonjour Perrine.
Bonjour Néla.
Nouvel épisode du service politique où on vous révèle ce feu qui couve au Parlement. Perrine, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment le pourrait-il ? Tu suis le Parlement pour BFM TV. Anne, toi, tu talonnes Gabriel Attal en suivant le chef du gouvernement avec Loïc Besson. En fait, c'est toute l'équipe ministérielle que tu suis aussi. Perrine, raconte-nous d'abord, c'est quoi cette histoire de ministres qui ne vont plus aux questions au gouvernement ?
Alors, il y a les ministres, mais il y a les députés aussi, hein, qui sont plus forcément très assidus. L'hémicycle est très, très clairsemé pendant les questions au gouvernement maintenant. Effectivement, depuis quelques semaines, on a commencé à s'interroger sur le fait que justement les députés n'étaient plus très présents. Oui. Et là, quand on interrogeait les députés, surtout de l'opposition, ils nous ont dit « Bah ouais, mais en fait, les ministres ne sont plus là non plus. »
Oui, c'est comme ça qu'est né ce podcast. Tu nous alertais en disant « Mais attendez, moi je suis dans les tribunes, je vois, il y a de moins en moins de monde là. »
Exactement. Et donc, ils nous disent « Les gros ministres ne sont plus là non plus. » Donc, en fait, on a que des réponses de sous-ministres, ministres délégués, allez, pour pas être désagréable, ou secrétaires d'État, qui effectivement lisent leurs fiches parce que connaissent mal les sujets, sont venus pour remplacer le ministre principal. Et on a commencé effectivement à se poser un peu la question, et c'est vrai que le mardi à l'Assemblée nationale, je vois moins souvent qu'avant Gérald Darmanin.
Ah, j'allais dire des noms.
Voilà, Bruno Le Maire, même Sébastien Lecornu.
Bon, des gros ministres.
Voilà, des gros ministres. Et donc, j'ai commencé à poser la question un petit peu à droite à gauche au sein du gouvernement ou en tout cas dans des cadres de la majorité. Et certaines sources me répondaient en off, bien sûr, très clairement. Ah mais oui, de toute façon, ça les emmerde. Ils trouvent que les questions ne sont pas au niveau et n'ont pas envie de venir. Il y en a même qui disent, de toute façon, je passe des heures ici, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Donc certains mettent la faute sur les députés insoumis, les autres sur les autres députés qui posent des questions qui ne sont pas au niveau et n'ont plus envie de venir. Bref, un exercice démocratique qui a clairement du plomb dans l'aile.
Ce qui du coup doit mettre en plus une bonne ambiance avec les députés à qui on dit, vos questions sont nulles et vous n'êtes pas intéressants.
Alors on leur dit pas. On me le dit à moi, je le répète. Et du coup, effectivement, ils n'ont pas besoin de ça pour avoir une bonne ambiance au sein de l'hémicycle. Mais effectivement, on voit en tout cas que la présidente de l'Assemblée, voyant que ça s'essoufflait, parce que le mardi, il y avait 2 heures de questions au gouvernement, voyant que ça s'essoufflait la 2e heure et que les bancs se vidaient, elle s'est dit, bon bah, on va mettre 1 seule heure le mardi et le mercredi, on va mettre 1 autre heure, comme ça peut-être qu'il y aura un peu plus de peps.
Et alors ?
Et puis patatras, en fait, le mercredi, il n'y a pas toujours personne.
Okay. Et Anne, on te dit quoi du côté du gouvernement ? On assume le côté, oui, c'est vrai, c'est plus aussi intéressant qu'avant, donc on n'y va pas.
Alors,
en tout cas pour les gros ministres.
Hein, voilà, on assume du côté du gouvernement, du côté de certains ministres, oui, en disant d'abord qu'on sort d'une séquence qui était anormalement excitante en termes de QAG. On a eu en effet cumulé d'abord les retraites, ensuite il y a eu la loi immigration, la crise agricole. Donc il y avait un curseur de désirabilité de la session des QAG qui était vraiment anormalement élevé.
Ouais, même pour nous.
En clair, exactement. Pour nous, c'était la foire d'empoigne. On a pas passé même certains mardis après-midi à diffuser quasiment intégralement la session des questions au gouvernement parce que ça se hurlait dessus dans l'hémicycle, parce qu'il y avait des sujets qui étaient extrêmement denses, qui était très compliqué aussi en termes de technique. C'était des projets de loi très techniques, les retraites et ensuite l'immigration. Il y avait des questions de chiffres, les ministres étaient contredits par d'autres députés. Donc c'était vraiment un peu la foire d'empoigne. Un ministre me disait, c'est pas le calme après la tempête en ce moment, c'est l'ennui après la tempête. Ça dit un peu tout aussi du curseur qui a été un peu artificiellement déplacé. Il y a eu les imbroglios aussi et les tâtonnements sur les modifications des QAG. Et effectivement, ça a perturbé certains ministres qui se sont dit, en fait, c'est encore plus compliqué parce qu'avant, on avait des rendez-vous. OK, ça marchait pas forcément, ces rendez-vous de QAG. Mais maintenant que c'est encore plus disséminé, qu'il y a 2 rendez-vous dans la semaine à l'Assemblée, qu'il y a en plus le Sénat, il faut faire le trajet entre l'Assemblée le Sénat, ils ont 10 minutes pour le faire.
Hein. Mercredi.
Voilà, le mercredi, ils finissent la session des questions au gouvernement. Ensuite, il faut aller au Sénat. Ils ont 10 minutes pour faire les trajets. Donc, il y a un balai de cortège en plein milieu de Paris.
Il y en a certains que ça décourage. Ça circule mal, hein,
absolument.
Je dis à ceux qui nous écoutent.
Et surtout pas en vélo.
Et surtout pas en vélo.
Et troisième point, il y a aussi, c'est vrai, un effet côté gouvernemental tout à fait assumé, un espèce de passage à vide avant les élections européennes, parce que l'agenda parlementaire a été un peu nettoyé des textes les plus polémiques. Parce que comme ça s'annonce un peu compliqué, la victoire de la majorité, enfin, Et même l'arrivée en seconde place derrière le Rassemblement national.
Victoire, ouais.
Voilà, la question, ça a été d'enlever les textes un peu polémiques pour pas qu'il y ait un affaiblissement du gouvernement au banc à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une espèce de petite baisse de régime très nette et qui est en effet assez assumée de la part du gouvernement en se disant on peut pas vraiment faire autrement.
Ouais, et ça arrive de manière plus générale, tu le dis, avec un agenda qui a été nettoyé et avec des députés qui assez régulièrement se disent maltraités par le gouvernement. J'ai des exemples en tête sur la fin de vie, par exemple, avec Gabriel Attal qui a annoncé que ça arriverait à l'Assemblée le 27 mai. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup plu, c'est une semaine de l'Assemblée. Donc en fait, normalement, c'est une semaine où c'est les députés qui ont la main sur l'agenda et pas le gouvernement. Donc ça, c'était pas forcément, voilà, ça n'a pas fait énormément plaisir. Ça arrive juste après que Bruno Le Maire ait aussi annoncé des coupes budgétaires que les députés ont pour certains découvert à la télévision en disant « Mais attendez, associez-nous quand même, on est censé co-construire des budgets, comment ça peut se passer ?» Enfin, presque un côté parasitage de l'Assemblée. Est-ce qu'on te dit au gouvernement « Oui, en fait, l'idée c'est, comme c'est un chaudron, ce qu'évoquait Perrine, le fait que voilà, la majorité relative, la présence des insoumis, le fait que ce soit Bruno, on te dit, toi, Anne, oui, l'idée c'est de... outrepasser désormais ou de bypasser l'Assemblée ?
Lorsque Gabriel Attal a été nommé, en effet, il avait dit on va gouverner beaucoup plus via des décrets et via des...
réglementaires.
Des règlements, exactement. Aussi parce qu'il n'y a toujours pas de majorité absolue. Donc ça, c'est un peu la difficulté aussi pour faire passer chacun des textes. Et Gabriel Attal a bien senti assez vite que ça passait très mal, notamment du côté de la présidence de l'Assemblée nationale. Ouais. Yael Braun-Pivet, elle s'en est ouvert auprès de quasi tous les journalistes politiques ces dernières semaines en disant on ne peut pas bypasser le Parlement comme ça. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, passer par la voie réglementaire ou par la voie d'autres
décrets,
types de décrets. Voilà, si je vais y arriver.
Les décrets et les règlements,
exactement. Mais bypasser le Parlement, ça ne sera pas possible. Donc, ils sont en train de rétro-pédaler un peu là-dessus en disant mais bien sûr que si, il va y avoir plein d'autres textes, il y aura des textes qui sont importants pour la vie quotidienne des Français, quelque chose sur la monoparentalité, il y aura le harcèlement scolaire, le consentement sur le viol, la fin de vie, et puis la loi Macron 2 à la rentrée. Donc en disant mais si, il reste des choses dans l'agenda, il n'y a pas de volonté de bypasser le Parlement. Mais c'est vrai quand même que, encore une fois, on sort d'une séquence qui a été difficile parce que les 49-3 aussi ont ulcéré les Français. Et une façon bien pratique de ne pas déclencher de 49-3,
c'est de rien faire voter.
Exactement, c'est de rien faire voter à l'Assemblée nationale.
Quand tu parles de lois importantes comme celles que tu viens de citer, on parle de la rentrée, donc en septembre.
Oui, voilà.
Là, aujourd'hui, il n'y a rien à part le 27 mai, effectivement, sur la fin de vie. Et les députés râlent, c'était certes une semaine de l'Assemblée, ça c'est un peu technique, mais qui râlent surtout, c'est qu'on est à une semaine des élections européennes et ils se disent mettre un tel texte aussi près d'une élection, c'est un peu exagéré. Alors, pour reprendre ce que dit Anne, il y a aussi un sujet, enfin il y a particulièrement un sujet, je trouve, Bruno Le Maire quand même, quand il annonce les 10 milliards d'économies, les députés ont dû le convoquer dans une commission pour pouvoir entendre ce sur quoi il comptait faire ses économies, parce que Bruno Le Maire est l'un des ministres qui est le moins souvent présent à l'Assemblée nationale. Et là, aujourd'hui, l'actualité, c'est il veut retoucher l'assurance chômage pour les seniors de plus de 50 ans. Sera-t-il à l'Assemblée ? Visiblement non demain, mais c'est vrai qu'il porte des sujets extrêmement clivants, comme le dit Anne, extrêmement denses. Et il ne vient pas forcément répondre aux questions des députés. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'avais observé pendant la... Alors là, on revient au mandat d'avant, mais pendant la crise sanitaire, Olivier Véran était très peu souvent à l'Assemblée. On me disait, oui, mais c'est parce qu'il a beaucoup de choses à faire, ce qu'on peut entendre. Il était ministre de la Santé à cette époque-là. Mais en off, on nous disait aussi, ça l'emmerde d'être toujours accusé par les députés. Donc, il y a quand même quelque chose...
Je crois que ça avait notamment beaucoup tendu le Sénat, dont ce n'est pas la culture. Et aussi, je comprends bien, les ministres se rendent un peu davantage, notamment à Bruno Le Maire, qui est toujours accueilli, c'est ça, avec un comité d'accueil
quand il vient. Mais c'est pareil à l'Assemblée nationale, en fait. Quand il le voit arriver, quand il voit que c'est lui qui va prendre la parole, les députés font « Ah, oh, il est là !» etc. Et ce qui ne l'empêche pas au Sénat la semaine dernière d'être très fortement attaqué par un sénateur LR. Il était là au Sénat. Donc le Sénat aussi, parfois, peut être virulent.
Alors je voudrais avoir votre expertise sur un dossier sur lequel, moi, personnellement, je ne vois absolument plus clair. C'est ce que nos confrères ont appelé le Attal Show. C'est quoi ? Ça vient d'où ? On en est où ?
En fait, c'est au départ une décision de la présidente de l'Assemblée nationale, justement voyant ce désintérêt réciproque et des ministres et des députés pour cette séance de questions au gouvernement. D'Elisabeth Borne, elle avait dit le mercredi, puisque maintenant nous sommes passés à deux jours, une heure, le mercredi... pourquoi pas demander à la première ministre Elisabeth Borne de venir répondre devant les députés pendant une heure. Parce que, de manière institutionnelle, normalement, la première ministre ne répond qu'au président de groupe. Et là, ce serait l'occasion pour chaque député d'avoir un retour directement de la première ministre. Donc, elle voulait mettre ça en place. Elisabeth Borne avait refusé, du temps où elle était à Matignon. Et donc, la présidente de l'Assemblée a dû réitérer sa proposition à Gabriel Attal. Et c'est là où ça s'est un tout petit peu grippé, parce que leurs relations ne sont pas excellentes.
Ah bon, Anne ?
Oui, il y a eu un moment, en effet, où Gabriel Attal a un petit peu préempté le pouvoir de Yael Braun-Pivet en disant « Mais bien sûr qu'on va mettre en place une telle session de QAG. » Et la présidence avait répondu de façon un petit peu verte « Vous attendrez la décision de la présidence de l'Assemblée nationale. » Donc, Gabriel Attal, lui, était plutôt tout à fait partant. Il est toujours tout à fait partant. D'ailleurs, il y a une grande chance que ça se mette en place dans les jours qui viennent. Et ça donnerait lieu, effectivement, à une session Attal Show, c'est tout à fait bien nommé. C'est-à-dire que pendant une heure, on n'aura que les réponses de Gabriel Attal. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, parce qu'on en a parlé avec des ministres ces derniers jours, qu'il va falloir qu'ils soient au fait de tous les dossiers de façon extrêmement technique. Parce que là, on peut déléguer à des ministres des réponses techniques sur certains dossiers très précis. Mais là, imaginez le degré de précision qu'il va falloir avoir sur chacun des dossiers, sur chacune des interrogations des députés. Et la deuxième question, alors pour Attal, ça veut dire diffusion quasi systématique, on imagine, sur les chaînes d'infos, par exemple. Pendant une heure, on entend Gabriel Attal qui répond, parce que ça crée de l'appétence médiatique. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et là, on en revient au sujet qu'abordait Perrine tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres ministres? Parce que là, vous avez un Gabriel Attal qui répond aux députés.
Ils vont être là ou pas?
Eh bien, c'est toute la question. Alors, les ministres disent, on se met à disposition de l'Assemblée nationale, puisque là encore, ils ont appris des erreurs, c'est l'Assemblée nationale qui va décider, la présidence de l'Assemblée nationale, qui rend son verdict. Il y en a certains qui sont pour, en disant, c'est quand même des moments importants, et puis de toute façon, on nous verra aux côtés du Premier ministre, puisque de toute façon, tout le monde va vouloir diffuser cette session de QAG. Il y en a d'autres qui disent, on sera là comme des imbéciles à côté du Premier ministre, on ne prendra pas la parole. Qu'est-ce qu'on irait faire dans une telle session de QAG? On servira à rien.
Et Perrine, tu disais les relations avec Yael Braun-Pivet, tu faisais référence à quoi exactement? Ils ne s'entendent pas très bien?
Non, alors visiblement, ils ne s'entendent pas très bien. Ça. Moi, d'après ce qu'on m'expliquait, ça remonte un peu. Il y avait eu une cérémonie à l'Assemblée nationale, alors je ne sais plus exactement quand, mais déjà, Yael Braun-Pivet, avant cette histoire, avait un petit peu fait une petite crasse au Premier ministre. Et en fait, ce qui s'est passé, effectivement, ce que disait Anne, c'est que Gabriel Attal, qui est très communicant, qui communique beaucoup avec ses équipes dans les médias, avait presque fait, en tout cas, ses équipes avaient presque fait passer cette décision de dire OK pour cette séance à sa propre idée. C'est-à-dire que c'était un peu tourné où Gabriel Attal,
la proposition.
Ce qui n'a pas du tout plu à la présidence. Moi, on m'a répondu quand j'avais cherché à les joindre suite à cela. On m'a répondu qu'il faudrait quand même que ces jeunes gens connaissent la procédure. Donc, ils parlaient du Gabriel.
Au Parlement, la procédure, c'est la procédure.
Voilà. Et en fait, la procédure, c'est quoi? C'est qu'il faut que les 10 présidents de groupe se réunissent, mettent en place justement les espèces de contraintes logistiques et techniques dont parlait Anne, c'est-à-dire qui va poser des questions. Est-ce que c'est tous les députés? Est-ce que c'est que les chefs de groupe? Est-ce que les ministres seront là? Et ça, c'est les 10 chefs de groupe à l'Assemblée, avec la présidente, qui vont décider de ces prérogatives.
Et tu as une date pour la réunion?
Alors justement, c'est un peu ça qui continue à complexifier le dossier. C'est qu'en fait, on sentait bien que la présidence traînait un peu des pieds pour convoquer les présidents de groupe. Moi, ça fait plusieurs semaines que je les appelle tous. Alors, vous avez une date? Non, toujours pas l'ordre du jour. Et puis d'ailleurs, Yael Braun pouvait parfois s'amuser un tout petit peu de ça. Alors là, il devait y avoir une date. Ça devait être mercredi matin, j'ai dit, c'est ça, cette semaine, mercredi matin.
Et
puis quand ça veut pas, ça veut pas. Mercredi matin, il y a l'hommage national à Philippe de Gaulle. Donc, ce sera décalé d'une semaine.
Bon, et
mais cela aboutira, m'assure-t-on, du côté de la présidence de l'Assemblée.
Bon, bah alors en attendant cette réunion, on va regarder précisément les bancs demain des ministres à l'Assemblée et mercredi au Sénat pour voir si Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, si j'ai bien retenu les noms, Perrine, ils seront.
Notamment, mais il y en avait d'autres. Mais effectivement, on m'avait dit cette formule, si tous les ministres avaient des ministres délégués, j'aurais plus un ministre sur le banc.
Et ben voilà, et ben on va garder un œil sur tout cela. Merci à vous deux, merci Anne.
Merci
à vous.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Politique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Évidemment, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site bfmtv.com. À très vite.